Je n'ai pas besoin de présenter à la plupart d'entre vous Monsieur François Dupuy-Grenier des Roussis.
J'aime beaucoup qu'on parle de moi.
Alors je vais te présenter tout de même. C'est un voisin, il est venu en voisin, puisque l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques est à Villeurbanne, non loin d'ici. Il la dirige actuellement, c'est un auteur, c'est un traducteur, c'est un historien, vous le connaissez déjà par plusieurs de ses œuvres, j'espère. Et cet après-midi, ce qu'il va nous proposer, c'est un texte peu connu, je crois, mais peut-être suis-je un des seuls à ne point le connaître, de Mario Pinet, d'un Yankee à la cour du roi Arthur. Donc je te cède tout de suite la parole et... Je pense que nous allons ensuite, nous aurons, comme vous le savez, une table ronde. Et je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de pause entre les deux. Il y a la communication de Gérard Levotte, bien sûr. Non, mais il y a deux communications, puis la table ronde. Mais je dois prévenir que nous enchaînons tout. Comme dans la miniature, nous aurons des aplats juxtaposés.
Merci beaucoup. Donc le titre de ma communication a lui aussi un petit peu changé par rapport à celui du programme, parce que l'accent principal dans cette communication sera mis effectivement sur un roman de Mark Twain, Un Yankee à la cour du roi Arthur, et c'est dans la conclusion que je me servirai des Monty Python, j'adopte la prononciation française, alors qu'au départ je pensais mettre en parallèle ces deux œuvres, donc Un Yankee à la cour du roi Arthur et Sacré Graal, dont il a été question ce matin. Je ne l'évoquerai qu'en conclusion. Et donc le sous-titre de cette communication est devenu « Sœur Boss contre Merlin l'Enchanteur ». Qu'est-ce que cela veut dire? On y reviendra, bien sûr. Sœur Boss, c'est le Yankee qui va prendre le pouvoir à la cour du roi Arthur. Il devient Sœur Boss, le boss de la cour, grâce à sa maîtrise des médias du XIXe siècle. Et son grand rival, bien entendu, c'est l'autre communicateur de la cour, c'est Merlin. Cette communication s'inscrit délibérément dans un horizon qui est celui d'une histoire de la communication, discipline au contour encore un peu flou, mais qui tend à se détacher de la seule histoire des médias, l'histoire du livre, l'histoire du journal, l'histoire de la radio, pour tenter de traiter globalement du système de communication d'une société. Et le petit travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était un travail collectif qui a été fait avec les étudiants, mes étudiants, non pas de l'ENSIB, mais d'autres voisins, qui sont les étudiants de l'Université de la Suisse italienne à Lugano, où j'enseigne à la faculté de communication, et où nous travaillons depuis plusieurs années, non pas sur les nouvelles technologies de l'information, mais sur les anciennes technologies de l'information, et notamment la façon dont ces anciennes technologies de l'information sont représentées, notamment dans la littérature et le cinéma. Alors voilà ce qu'est l'ouvrage qui va servir de trame à la communication. Voici la page de titre de la première édition 1889 du Yankee à la cour du roi Arthur. Vous voyez que ce n'est pas seulement un Yankee, c'est un Connecticut Yankee, la quintessence du Yankee. Voici le joli cartonnage de la première édition. Et pour illustrer le propos général de l'ouvrage, vous voyez dans l'illustration qui fait face à la première page du premier chapitre, le Yankee avec son qui chatouille le lion britannique. Dans un premier temps, je voudrais rapidement essayer de situer l'horizon sur lequel se détache la publication du Yankee à la cour du roi Arthur. Et en insistant sur la façon dont le mythe de Camelot, et plus généralement le mythe médiéval, est bien un mythe américain, est bien un mythe du XIXe siècle, et correspond à une situation historique tout à fait spécifique. Que Mark Twain et d'autres, mais Mark Twain en l'occurrence, définit et dénonce. Alors quel est ce mythe ? Il s'agit, quelques années seulement après la fin de la guerre de sécession, elle s'achève en 1865, du mythe du noble Sud, le noble Sud, terre de la chevalerie, et noble Sud opprimé, notamment par les Carpetbaggers, célèbres, après la défaite. Donc Mark Twain, qui est un homme du Sud, hein, c'est un homme du Missouri, il est né à Florida, Missouri, en 1835, se considère comme un Yankee, et ce mythe médiéval, il veut le combattre. Alors, de quoi se compose-t-il ? Il faut bien sûr parler d'Ivanhoe, on revient à Ivanhoe, et je dois dire, j'ai été très étonné, en travaillant là-dessus, de voir que Walter Scott en général, et Ivanhoe en particulier, hein, je ne vais pas donner les chiffres précis, mais Walter Scott est l'auteur le plus lu, le plus demandé dans les bibliothèques américaines à la fin du XIXe siècle. Donc il y a une grande enquête de 1893 là-dessus, et nous avons de très nombreuses éditions dans tous les formats possibles et imaginables, souvent très illustrées, de ses œuvres. Par exemple, donc là, une édition célèbre de la même année que l'enquête Hart, la Dayburg Edition de 1893, avec, j'ai mis une des scènes célèbres d'Ivanhoe, la scène du tournoi. Donc, dans la littérature, un primat impressionnant du scotisme, et dans la peinture, alors c'est le pré-raphaélisme. J'ai, pour illustrer cela, utilisé un tableau célèbre d'un peintre aujourd'hui moins connu, Sir Frank Dixie, qui a une œuvre très abondante, illustrant notamment des épisodes de la Divine Comédie. Et ce tableau de 1885, donc tout à fait contemporain de la publication du Yankee, s'intitule « La chevalerie ». Et Mark Twain disait que ce Frank Dixie, ce que j'ai indiqué, donc écrit D-I-C-K-S-2-E, aurait bien pu s'appeler Frank Dixie, alors X-I-E, c'est-à-dire Dixieland. Hein. Donc toujours le mythe du Sud, donc le noble chevalier qui va protéger la jeune femme qui risque de subir un mauvais parti. Dans le théâtre également, hein, ce mythe est très, très fort. Je cite ici la tournée triomphale en 1895 de Sir Henry Irving, hein, l'acteur le plus anglais, le plus célèbre certainement de la fin du siècle, avec Helen Terry. Sa tournée triomphale avec une pièce qu'il avait commandée, hein, le roi Arthur, où il jouait le rôle-titre. Dans l'architecture, cela se traduit également, et Mark Twain n'a pas eu de mots assez durs contre la restauration du Capitole de l'État de Louisiane à Baton Rouge, qui avait été détruit pendant la guerre de sécession, enfin, quasiment complètement détruit, après avoir été construit donc en 47-50 dans ce style que lui appelait « style Walter Scott ». Et Mark Twain disait, mais enfin, plutôt que de le restaurer dans ce même style, disons réactionnaire, on aurait mieux fait de terminer le travail à la dynamite. Bon. En tout cas, une inscription, donc là aussi, du scotisme dans l'architecture. Et pour finir ce très rapide petit tour d'horizon, dans une construction tout à fait contemporaine, puisque il s'agissait de la salle de prêt de la Boston Public Library, donc avec des fresques commandées en 1890, elles ont été achevées une dizaine d'années plus tard. C'est aussi le thème arthurien qui revient dans ces fresques commandées à Edwin Abbey. Donc, le roman de Mark Twain doit se situer dans ce contexte, hein, défini très, très largement. Qu'est Mark Twain en 1889 ? C'est certainement l'auteur américain alors le plus célèbre est le plus lu. C'est un roman de sa maturité, c'est un roman qui vient après la publication de Tom Sawyer, du Prince et du Pauvre, de la vie sur le Mississippi et de Huckleberry Finn. Et j'y reviendrai tout à l'heure, Mark Twain est non seulement un auteur célèbre, mais un auteur riche, et un auteur qui contrôle complètement sa production, puisqu'il a sa propre maison d'édition. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le Yankee, la cour de roi Arthur, qu'est-ce que c'est? Donc, ça se présente de façon tout à fait explicite comme une réécriture satirique, donc de la morte d'Arthur de Thomas Malory, dont on connaissait au XIXe siècle de nombreuses éditions avec mise en anglais moderne. Et que Mark Twain nous indique avoir lu en 1884 au cours d'une tournée pendant laquelle il présentait justement le Huckleberry Finn. C'est en décembre 1884 qu'il a lu La morte d'Arthur, et depuis lors lui trottait en tête ce projet d'un roman d'anticipation, ou d'uchronie plutôt, à l'envers, qui se présenterait comme une réécriture de la morte d'Arthur. Alors, quelle est la trame du roman, en deux mots? Donc, un industriel de la métallurgie, après une bagarre, a reçu un coup sur la tête, et il se réveille. Bon, c'est un artifice littéraire sur lequel Mark Twain insiste peu. Il se réveille à Camelot, en 528, très précisément. Et tout le roman va se dérouler donc à Camelot, où il devient, ce que je disais tout à l'heure, Sir Boss, hein, le deuxième personnage du royaume après le roi Arthur, et cela grâce à sa maîtrise des moyens de communication du XIXe siècle. Tout le royaume est câblé, il y a des lignes de télégraphe et de téléphone partout, il crée un journal, il impose la publicité, il y a des phonographes, la machine à écrire, bon, etc. Tout ça marche pendant 3 ans, mais au bout de 3 ans, alors que le roi Arthur est prêt à découvrir l'Amérique, nous dit Mark Twain, Merlin reprend le pouvoir grâce à une ruse machiavélique et l'endort, lui, Hank Morgan, pour 1300 ans. Voilà comment les choses se déroulent. Alors, ce qu'il faut d'abord indiquer, c'est que ce roman, donc, qui a une intention satirique tout à fait précise, nous dépeint un Moyen-Âge qui est d'abord, donc l'Angleterre arthurienne, ce Moyen-Âge-là, cette image du Moyen-Âge-là, c'est d'abord l'Europe, la vieille Europe. Et une Europe très précisément définie, c'est celle de la Belle Époque. Alors on la reconnaît très bien, puisque les illustrations très célèbres, hein, de Daniel Byrd, représentent très souvent des personnages contemporains. Donc, Sarah Bernard, qui est représentée sous les traits du page Clarence. Tennyson, en Merlin, ce qui n'est pas du tout neutre, car son livre Les Idylles du Roi a été aussi un des vecteurs les plus importants du mythe arthurien, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre d'ailleurs, donc représenté en Merlin, le mauvais. La reine Victoria, alors qui est très maltraitée, donc qui est une truie, sauvée effectivement d'un port lubrique. Et donc le prince Édouard et le Kaiser, qui représentent la noblesse, ce que Twain appelle des chuckleheads, etc. Enfin, les allusions contemporaines sont extrêmement nombreuses. Deuxième aspect, bon, quelle est la trame générale du livre? On reviendra donc après sur les aspects proprement de communication. Eh bien, c'est l'éclipse qui va avoir lieu, c'est la dernière image du livre, hein, le droit du peuple finira par éclipser le droit divin des rois, hein, donc vous voyez le droit divin des rois, le soleil, hein, du droit divin des rois derrière, et devant, on ne lit pas très bien, mais il y a écrit « La terre appartient au peuple ». Voilà, hein, c'est le... Donc, comment arriver à ce résultat? Eh bien, il faudra supprimer la chevalerie, donc une belle représentation de la chevalerie exploiteuse, unie évidemment à l'Église catholique, qui passe un mauvais quart d'heure dans le roman. Donc la chevalerie Alors, le sous-titre de cette image, ce sont les boys going a-grailing. On va au Graal, comme on va à la pêche. On va au Graal pour occuper ses loisirs. Bon, c'est la chevalerie oisive. Et bien entendu, les moines inquisiteurs et tortionnaires. Il faudra se débarrasser de tout cela, substituer donc la démocratie à l'américaine à l'autocratie européenne représentée dans ce Moyen-Âge de convention. Mais quel est l'instrument principal qui permettrait, d'après le roman, de parvenir à ce résultat? Eh bien, c'est l'utilisation des médias. Hein, c'est le thème que je souhaitais développer, cette représentation des médias, et donc le combat de Sir Boss, donc à droite, contre Merlin, à gauche, le médiateur, en quelque sorte, contre le magicien. Alors, il y a quatre procédés qui sont utilisés. Le premier, c'est de créer de grands événements médiatiques. Alors, Merlin était très fort pour cela, mais Hank Morgan l'est encore plus, parce que, notamment, il sait utiliser la dynamite, et il va réussir, après avoir, dans un premier temps, utilisé une éclipse pour échapper à la mort. C'est un épisode qui sera repris dans Tintin bien des années plus tard. Il réussit à faire sauter la tour de Merlin, et c'est ce qui lui permettra, devant un grand concours de peuple, c'est ce qui lui permettra de se substituer à lui. Donc, organiser de grands événements médiatiques. Deuxième événement médiatique, il va déboucher une fontaine sacrée avec, grâce à sa connaissance de la plomberie et de formules magiques dont je vous laisse apprécier la finesse, mais qui se réfèrent toutes à des événements très contemporains, hein, les nihilistes, la guerre du Transvaal, enfin, tout ça est plein de finesse. Et enfin, toujours dans ces événements, il y a le tournoi au cours duquel il va réussir, grâce à son maniement du lasso, à jeter à bas Sir Sagramore. Donc on voit le lasso dans la main droite, et voilà Sir Sagramore qui tombe par terre. Donc organiser de grands événements médiatiques, mais plus largement, utiliser les médias. Et dans un petit chapitre qui s'intitule « Économie politique du VIe siècle », Morgan loue, dit-il, les créateurs du monde moderne après Dieu, donc Gutenberg, Watt, Arkwright, Whitney, Morse, Stephenson et Bell, qui vont donc, je le disais tout à l'heure, préparer le roi Arthur à découvrir l'Amérique, c'est-à-dire l'union des grands créateurs des transports modernes et des moyens de communication modernes. Alors, parmi ces moyens de communication, il y a la presse, d'abord. Une des premières choses que fait le Yankee, c'est de créer un journal, Hosanna, le volcan littéraire, hein, littéralement. Donc voici les gros titres, hein, c'est l'hebdomadaire de Camelot, qui raconte effectivement l'épisode du débouchage de la fontaine sacrée. High Times in the Valley of Holiness. Bien. Alors on observe d'ailleurs que ce journal médiéval, on est quand même au VIe siècle, montre que les typographes n'ont pas tout à fait maîtrisé hein, l'usage des caractères. On le voit bien ici encore dans le compte-rendu qui est fait de l'activité non seulement du boss mais des chevaliers errants. Donc on signale que donc Lancelot vient d'Auxire, un malheureux chevalier, Sir Balmoral le merveilleux, bon, etc. Et puis on donne des nouvelles de l'activité des chevaliers errants, les plus classiques, Lancelot, mais aussi donc Sir Charolais, le chevalier des rouges pelouses, etc. Donc, créer un journal. Bon, autre exemple du journal, toujours d'Hosanna, qui annonce la joute de Hank Morgan contre Sir Sagramore. Ça, c'est l'éditorial du page Clarence sur la joute, etc. Donc, et puis, donc, la lecture. Hank Morgan est en train de lire le journal de Camelot. Donc, premier élément, une presse libre. Deuxième élément, bon, la publicité, évidemment, donc remplacer les armoiries par de la publicité, donc publicité pour le savon en plus. Troisième élément, bien sûr, le télégraphe et le téléphone, hein, je vous le disais tout à l'heure, tout le royaume est câblé. Et Hank Morgan, qui s'est épris d'une dame de la cour, Dame Sandy, a appelé sa fille Hello Central, puisque c'est une formule magique. Voilà. Alors tout cela, ce sont les moyens par lesquels le Hank Morgan va asseoir son pouvoir à la cour du roi Arthur. Et ce que je voudrais souligner dans un deuxième temps, c'est que cela correspond à une pratique réelle de Mark Twain. D'abord, dans le lancement même d'un Yankee à la cour du roi Arthur. Puisque, je vous l'ai dit en commençant, Mark Twain a sa propre maison d'édition, Webster. Et d'autre part, qu'il vend entièrement ses œuvres à cette époque-là par souscription. Donc, il va, et alors la presse d'ailleurs se moque assez souvent de Mark Twain comme entrepreneur de sa propre œuvre, et le représente comme une firme, Mark Twain Incorporated, en 1905. Donc avec toutes sortes de moyens, donc le lancement de cette œuvre, la prépublication dans le Century Magazine, de larges extraits, le communiqué de presse, dans lequel on met en avant le caractère vraiment américain du livre, l'affiche, le placard, donc « A book that appeals to all true Americans », donc le slogan, oui, un livre qui s'adresse à tous les vrais Américains dans le catalogue de l'éditeur. Et puis l'effet auteur, hein, puisque la figure de Mark Twain, qui est donc l'écrivain américain alors le plus célèbre du temps, donc est mise en valeur par l'insertion du nouveau livre dans la liste de ses précédentes publications. Donc il y a des représentants, très souvent d'anciens soldats de la guerre de sécession, d'ailleurs, qui sont pourvus d'un prospectus illustré, que voilà, avec lequel ils vont parcourir les États-Unis. Et donc ils ont un contrat, donc voilà le modèle type. Et ils doivent remplir des carnets, avec donc voilà la formule. Et voilà le résultat. Nous connaissons parfaitement tous les souscripteurs, non seulement d'ailleurs de ce roman, mais de tous les romans de Mark Twain qui ont été vendus de cette manière. Voilà, enfin, autre exemple de la... C'est infini les déclinaisons de la vente du livre, la vente en coffret, puisqu'on assoit le succès du nouveau livre sur le succès des anciens, Huckleberry Finn et le Prince et le Pauvre. Alors ça, c'est la stratégie médiatique autour du livre en question, mais cette stratégie médiatique, elle correspond beaucoup plus largement à une position idéologique et à une pratique réelle. C'est-à-dire que Mark Twain se vantait, et c'était vrai d'ailleurs, d'avoir été le premier écrivain, ou en tout cas un des tout premiers, à se faire installer le téléphone en 1876, enfin l'année où les brevets de Bell sont déposés, et à avoir écrit un roman entier à la machine. Alors, voilà bon, le type de téléphone qu'il avait fait installer dans sa maison bateau hein, qu'il avait à Hartford dans le Connecticut. Il est resté jusqu'en 1891. Donc le Yankee de la vie réelle rejoignait le Yankee du roman. Et puis voici donc la machine à écrire, enfin à droite, hein, la machine à écrire sur laquelle il aurait effectivement écrit. Alors les twainistes, pour les appeler comme cela, disputent pour savoir si c'était vraiment sur le Mississippi ou si c'était plutôt Tom Sawyer. Enfin, la plupart semblent penser que c'était sur le Mississippi. En tout cas, en 1905, la firme Remington utilise la notoriété de Mark Twain pour sa publicité, en opposant une lettre que Twain avait écrite en 1875 à la firme. Alors elle est signée Clemens, c'est le véritable nom de Mark Twain. Mark Twain, c'est un pseudonyme, hein, c'est Samuel Clemens. Donc, en 1875, il écrivait qu'en somme, les machines n'étaient pas assez perfectionnées pour qu'ils utilisent, mais depuis, alors c'est dans son autobiographie, Today, aujourd'hui, les machines ont fait de tels progrès qu'il a décidé de les utiliser, et dit-il, il a été le premier à appliquer la machine à écrire à la littérature. La pratique, il y aurait mille choses à dire hein, sur cette pratique de Mark Twain, en matière de nouvelles technologie, du temps. Je signale simplement à ceux, et je sais qu'il y en a, que ces questions intéressent ici, qu'il a mis beaucoup d'argent dans un projet de machine à composer, magnifique d'ailleurs, de la machine de Page, une machine qui n'a pas marché du tout puisque la linotype s'est imposée en quelques années à sa place. Donc, non seulement Mark Twain, dans son roman, donc, nous montre comment le Moyen-Âge peut être quelque sorte aboli par un bon usage des médias, mais cela correspond à une pratique réelle qu'on a vue autour du lancement du livre et plus généralement à une position idéologique. En effet, qu'est-ce que le Moyen-Âge finalement ? C'est un monde qui s'apprête, qui se prépare à être sauvé par les médias. Dans le roman, si Hank Morgan avait triomphé, eh bien l'Amérique aurait été découverte beaucoup plus tôt, dès le VIe siècle. La face même de notre Moyen-Âge aurait évidemment été tout à fait changée. Donc ce que nous avons dans le roman de Mark Twain, c'est une représentation, une image du Moyen-Âge qui correspond à un monde qui a besoin d'être sauvé. Sauvé par quoi ? Par les médias. Par les médias, pourquoi ? Parce qu'ils permettront d'établir la démocratie. Alors je voudrais opposer, donc je l'avais indiqué en commençant, cette façon de faire avec celle qui a été déjà évoquée ce matin, qui est celle des Monty Python, puisque leur film de 1975, Monty Python, sacré Graal, peut, et on l'avait fait à Lugano dans le détail, être étudié de ce point de vue-là, du point de vue des représentations de la communication. Alors, il y en a énormément d'exemples, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le sens général du film, quant à cette question, contrairement évidemment à l'attitude de Mark Twain, c'est une attitude, disons, de désenchantement et de satire violente de l'omniprésence de la communication, avec trois aspects. D'abord, en héritier donc de la tradition du nonsense, on emploie le nonsense comme une arme satirique pour dénoncer le non-sens, au fond, des talking heads, les têtes parlantes de la télévision. Donc vous avez ici une image, alors celle-là fixe, il y en aura quelques autres animées dans un instant. Donc c'est le chevalier aux trois têtes. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez vu le film, de la façon dont ils s'y prennent. Il y a bien entendu donc une figure correspondant à celle de Merlin, Tim l'Enchanteur. Le deuxième aspect par lequel le film globalement se montre peut-être considéré comme une critique des médias, eh bien c'est simplement le fait que c'est un film à petit budget. C'est le premier film qui a eu vraiment du succès des Monty Python. Après, ils ont fait des choses plus lourdes, mais c'est un film à très petit budget. On avait peu de moyens au nord de l'Angleterre, dans la boue. Enfin, ils ont beaucoup souffert au moment de ce film. Et qui se donne pour sujet une entreprise à petit budget, c'est d'ailleurs exactement comme cela qu'ils le définissent dans le synopsis, low budget enterprise, la quête du Graal par des chevaliers qui, vous vous en souvenez, n'ont pas de monture, ils doivent faire cataclope, ou plus exactement ce sont des noix de coco qui sont agitées par le personnage que vous voyez à gauche qui s'y substitue. Donc on verra tout à l'heure la scène animée. Et du coup, donc cette représentation du Moyen-Âge apparaît comme celle, on pourrait dire, d'une communication pauvre qu'on oppose à l'abondance, à la surabondance de la communication contemporaine. Communication pauvre qui est évidemment celle des Monty Python eux-mêmes, puisqu'on nous a rappelé ce matin que leur cinéma est avant tout un théâtre. Alors je voudrais, pour terminer, vous donner deux exemples de la façon dont sont représentés ces médias pauvres, en quelque sorte médiévaux, dans le film des Monty Python. Le premier, il faut que je change de disque. Voilà. Le premier, alors c'est une représentation de Trouvert qui chante la gloire de Sir Robin. Vous allez voir de quelle façon. Et le deuxième, alors c'est le tout début, ça c'est au milieu du film. Et le deuxième, c'est très peu de temps après le début du film, l'apparition de Dieu le Père à Arthur et à ses compagnons, qui leur présente leur tâche, la quête du Graal, et qui cette fois ne représente pas donc un trouvert, mais utilise une représentation assez amusante du manuscrit médiéval. Donc je vais vous présenter ces deux très courts extraits. Si, attendez, oups, il faut que je clique sur quoi ? Là, voilà. Voilà. Ok. Et si on le met plein écran, là, on le...
Elle t'entraîne. Pardon.
Of Sir Robin. So each of the knights went their separate ways.
Sir Robin. Ah oui, mais vous voyez plus les sous-titres. Mais ce n'est pas un problème pour vous.
He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Brave, 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 brave Sir Robin. He was not in the least bit scared to be mashed into a pulp. For to have his eyes gouged out and his elbows broken, to have his kneecaps split.
Alors, en fait, toutes les horreurs qui lui arrivent. Hein,
and his limbs all hacked and mangled, brave Sir Robin. His head smashed in and his heart cut out and his liver removed and his bowels and blood.
C'est de pire en pire, et alors on coupe au moment où son organe viril est très menacé. Voilà. Et donc la deuxième... Pardon. Deuxième séquence.
Arthur, voilà. Arthur, king of the Britons. Oh, don't grovel. One thing I can't stand is people groveling.
Sorry.
And don't apologize. Every time I try to talk to someone, it's sorry this and forgive me that, and I'm not worthy. What are you doing now?
I'm averting my eyes, O Lord.
Oh, don't. It's like those miserable psalms. They're so depressing. Now knock it off.
Yes, Lord.
Right. Arthur, king of the Britons. Your knights of the Round Table shall have a task to make them an example in these dark times.
Good idea, O Lord.
Of course it's a good idea. Behold, Arthur, this is the Holy Grail. Look well, Arthur, for it is your sacred task to seek this grail. That is your purpose, Arthur. The quest for the Holy Grail.
A blessing from the Lord. God be praised.
Je ne pense pas qu'on connaisse la Bibliothèque nationale le manuscrit. Attendez. Il faut arrêter la machine infernale.
On va applaudir.
Attendez.
Tu fais stop là.
Voilà. Oui, pardonnez-moi. Bien. Donc on ne reconnaîtrait pas effectivement le manuscrit dont pourrait être extrait ce petit dessin animé. Donc j'avais souhaité, donc dans cette communication, opposer donc le monde qui doit être sauvé par les médias, ça c'est la représentation de Mark Twain, à la façon dont le Moyen-Âge pourra nous sauver des médias, qui est cette fois-ci la représentation des Monty Python. Merci beaucoup.
Merci pour cette belle leçon de médiologie appliquée à l'obscurantisme. Je pense que ça ne va pas manquer de provoquer quelques questions dans la salle, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, parce que chacun peut avoir ses préférences finalement. Est-ce que... Je ne vois pas beaucoup de bras se lever. Pourtant, le micro est prêt là-bas. Notre charmante hôtesse a un micro à la main. Non. Tu as trouvé. Oui.
Alors, avez-vous trouvé une victime?
Victime consentante, c'est moi. C'est une relation avec Foster. Là, je vois oui. Que le Capitole de l'État de Louisiane est fait en guise de château médiéval. Alors, le symétrique inverse serait dans Foster. Hein. Camelot dans Foster, c'est le Parlement d'Ottawa. Ah.
Merci.
Une autre intervention, une autre.
Je vais peut-être me poser une question à moi-même comme ça.
C'est plus sûr.
C'est plus sûr parce que.
Peut-être connais-tu la réponse.
On peut parce que donc tu disais tout à l'heure que tu ne connaissais pas ce roman. En France, il a été traduit, mais il n'est pas très connu. Effectivement, il a été traduit dans les années en 1950, mais il n'y a pas eu de réédition complète depuis. Il y a des éditions pour les enfants, mais c'est tout. En revanche, alors aux États-Unis, c'est vraiment un classique. Et donc, ça a été un des plus grands succès de Mark Twain, et à l'époque et depuis. Hein, il fait partie des classiques de Twain avec Huckleberry Finn, Tom Sawyer, Le Prince et le Pauvre. Il fait partie du groupe des classiques. Et puis, alors, sujet que je connais beaucoup moins bien que l'orateur qui m'a précédé ce matin, il a fait l'objet de très nombreuses adaptations au cinéma, et très très tôt, hein, dès 1910. Et jusqu'à une époque très récente, puisqu'on a eu des émissions de télévision, soit alors qui reprennent le thème même du roman, soit le décline, et on substitue à ce moment-là aux Yankees toutes sortes de figures, notamment enfantines. Hein. Il y a A Kid at King Arthur's Court, enfin, c'est de 95, et donc c'est un, comme on dit en anglais, c'est un texte séminal.
Eh bien. Merci. J'espère que Gérard Levotte est dans la salle. Oui.
Sans ça, je veux bien continuer.
J'ai encore des images.